Couture dans le mid.
J'aime pas ça.
Avec Pierre Couture et Frank Fournier.
Le deux de misère.
Radio X.
Ouais, ben le bordel des pour les propriétaires de piscines, là, ça se poursuit, là. Parce que, tu sais, la loi qui était censée entrer en vigueur le 30 septembre 2025 a été reportée en 2026. Mm-hmm. On va être en pleine élection. Et là, tu as des municipalités qui ont pris les devants puis qui imposent des règlements plus sévères que le règlement provincial des piscines. Et là, le bordel est pogné encore. Et
oui.
On est là-dedans. Hein? Hopi?
C'est le jour de la marmotte.
Au Québec. On est au Québec.
Yes.
Bon, là, je voulais parler du plan du PCQ de 47 milliards. Puis j'ai dit, bon, ben Renaud Brossard de l'Institut économique de Montréal est là. Renaud, comment ça va?
Ça va super bien, vous autres?
Oui, yes. Ça va bien. Écoute, on va parler de ça, puis on va parler aussi de la dette canadienne, un espèce de fonds. Hein. Carney a pris de l'argent pour faire un fonds d'investissement, mais il va s'endetter avec ça. Mais si tu regardes, je sais pas, tu as eu le temps de regarder un peu le plan du PCQ hier, 47 ben oui. milliards de dépenses sur 5 ans. Comment tu vois ça, toi?
Ben écoutez, je vois ça d'un très bon œil. 47 milliards de dépenses sur 5 ans, c'est clairement quelque chose qui peut être fait. Surtout qu'on regarde le niveau de dépenses. Là.
Et le déficit, juste, hein? Le déficit ben, aussi, là.
Et c'est exactement ça. Je te dis, présentement, ce qu'on regarde, c'est que sous le gouvernement actuel, là, on a eu une très, très forte augmentation des dépenses. On a eu une très, très forte augmentation de la taille de la fonction publique. Mais quand on demande aux Québécois est-ce que les services sont meilleurs ou non, en général, les gens vont dire que ben non, les services ne sont pas meilleurs. C'est-à-dire, on attend toujours très longtemps aux urgences. Les files d'attente pour les CPE sont encore très longues. Le système d'éducation n'est pas meilleur qu'il était. Je pense que cette idée donc de faire du ménage dans les dépenses, c'est une bonne chose. C'est le fun de voir que le PCQ est le premier à mettre des chiffres là-dessus. Parce que pour l'instant, il y a d'autres partis qui parlent de faire le ménage dans les dépenses de réglementation. Je pense au PQ, entre autres. C'est sûr qu'on entend des bonnes paroles, mais on a hâte de voir justement s'il va être en mesure de mettre des chiffres, de mettre quelque chose d'ambitieux. Mais à date, le PCQ, avec ce 47 milliards de baisse de dépenses sur 5 ans, est vraiment le plus ambitieux à ce niveau-là.
Mais si tu regardes juste le déficit, c'est quoi 5, 7, 8 milliards par année sur 5 ans? C'est 40 milliards de déficit, là?
Ben exactement. On parle ce que le PTQ fait, c'est essentiellement réduire les dépenses permanentes de manière de à peu près 9 milliards. Il y a une part de ça d'ailleurs qu'il faut mentionner, c'est des crédits d'impôt aux entreprises, qui sont par exemple certaines subventions qui sont données par ça. Donc c'est pas exactement une dépense, c'est plutôt une baisse dans un rabais qu'on donne au niveau des revenus. Mais je pense que c'est des choses qui vont du bon côté. Ce que j'espère voir, c'est au niveau après ça des taxes et des impôts, qu'est-ce qu'ils prévoient faire? Justement parce que si on enlève les subventions, c'est une bonne chose. Les subventions ne sont pas très efficaces, mais c'est sûr que nos entreprises ont quand même besoin d'aide. Puis je pense que le meilleur moyen de les aider, c'est justement au lieu d'avoir des subventions comme ça, d'avoir juste une baisse d'impôts qui est généralisée. Là, ça nous permettrait justement d'avoir un environnement fiscal qui soit bien plus favorable à la croissance d'entreprise que celui qu'on a présentement avec des taxes et impôts élevés et ensuite des subventions super élevées.
Ben, oui, c'est ça. Puis au niveau de la fiscalité, on a vu Trump couper beaucoup aux États-Unis. Si on veut s'arrimer aux États-Unis, il faut être aussi compétitif. Il faut ajuster là aussi.
Ben absolument. Et en fait, c'est vraiment un super bon point que tu soulèves parce que historiquement, le Canada puis le Québec aussi avaient un avantage fiscal par rapport aux États-Unis. On avait des taux d'imposition pour des entreprises, je vais préciser quand même,
ouais,
qui étaient plus bas que les taux américains. Mais quand Trump 1 est arrivé, dans son premier mandat, il a baissé les taxes et impôts des entreprises. À un point où on est un peu plus kiff-kiff avec les États américains. On a vu qu'à ce moment-là, il y a quand même une baisse de l'investissement, des nouveaux investissements qui allaient vers le Canada. La raison est simple, je veux dire, on avait historiquement comme avantage le fait qu'on avait un accès facile au marché américain, mais qu'en plus, on avait une fiscalité qui était un peu meilleure, ça faisait que c'était plus facile d'attirer des entreprises. On a gardé cet accès facile au marché américain, du moins pour l'instant, mais notre fiscalité est rendue pas mal kiff-kiff avec celle des États-Unis. C'était un peu moins attrayant. Si le président Trump y va avec une autre baisse d'impôts des entreprises, ben là, on va avoir un accès qui est peut-être facile ou peut-être pas, on ne le sait pas encore au niveau du marché américain. Mais en plus de ça, des impôts élevés, ben, on va avoir une chute encore d'investissement. En revanche, si ce qu'on faisait au Québec, c'est qu'on arrêtait de subventionner. Donc, on prenait des milliards de dollars par année en subvention qu'on envoie. Là. On arrête d'envoyer ça, mais au lieu de l'envoyer en subvention, on fait juste l'utiliser pour baisser les impôts. On sera en mesure de baisser le taux d'imposition des entreprises au Québec de 11,5 à peu près 4,5 %. Mais quand on fait un taux combiné Québec et Ottawa, ça nous donnerait au Québec le taux d'imposition des entreprises le plus bas en Amérique du Nord.
Donc on pourrait, mais on pourrait attirer davantage de nouvelles entreprises en dehors, là?
Exactement, exactement. Puis la beauté de ça, c'est que contrairement aux grands plans gouvernementaux subventionnés, ben quand on fait juste baisser les impôts, on simule un peu tous les secteurs de l'économie. Fait que là, c'est pas justement les fonctionnaires chez Investissement Québec qui disent, écoutez, là, la prochaine grosse affaire, c'est les dirigeables. Ils mettent à peu près 100 millions dans Flying Whales. Ou la prochaine grosse affaire, c'est les batteries électriques. Puis on s'en va avec je sais pas combien de millions qui avaient été mis dans Nordvolt. Mais quand on baisse les impôts à la place, c'est qu'on aide toutes les entreprises, que ce soit les Bombardiers et tout ça de ce monde, mais aussi tous les petits commerces locaux, toutes les plus petites entreprises dont on n'entend pas nécessairement parler, mais qui contribuent à faire rouler l'économie du Québec.
Qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire une révision des programmes, justement, parce qu'on parle des subventions, mais on parle aussi de faire une révision complète de justement tous les programmes gouvernementaux où on envoie de l'argent. La CAQ, avec Mme Durasseau notamment, mais elle nous avait promis de le faire ça. Je sais que le gouvernement Harper au fédéral l'avait fait ça. Mais il me semble qu'on ne devrait pas attendre que ce soit promis dans une élection. Il devrait avoir un genre de mécanisme là, qui dit qu'à l'intérieur d'un mandat, un gouvernement est obligé un peu là, de faire ça. Sinon, il y a plein de trucs qui s'accumulent. Puis ça, à un moment donné, il faut faire le ménage là-dedans. Là.
Absolument, puis je veux dire, c'est quelque chose qui devrait être fait de manière constante. Pour voir aussi que c'est pas toutes les révisions des programmes qui sont bien faites. Je pense que le meilleur exemple d'une révision qui avait été bien faite, c'est ce qui avait été fait sous le gouvernement fédéral de Jean Chrétien. Mais à l'époque, il n'y a aucun programme qui n'était pas touché par la révision des programmes. Et vraiment, ils sont passés ligne par ligne dans le budget en se posant des questions. En disant, bon, ben est-ce que ce programme-là, il est efficace? Est-ce que j'ai un bon rapport coût-bénéfice? Est-ce que on est le bon niveau de gouvernement pour le faire? Parce qu'on va s'entendre, que ce soit au provincial, au fédéral, au municipal, et il y a des programmes qui vont être en dehors des champs de compétences de chacun des gouvernements. Posons sur la question, est-ce que ça pourrait être mieux administré par le privé? Le fédéral était passé comme ça, ligne par ligne, et avait réussi à passer d'une situation où on avait des déficits budgétaires qui équivalaient à peu près 20-25% du budget, à une situation où ensuite on a eu des budgets équilibrés et on a réussi à rembourser 100 milliards de dollars de dettes en l'espace de près de 10 ans. Donc, c'est quelque chose qui est faisable, c'est quelque chose qui est souhaitable. Malheureusement, bien souvent, ce qu'on a vu, c'est que plusieurs révisions de programmes ne sont pas ambitieuses, puis ils vont dire, bon, ben, on va réviser les programmes, mais on ne touchera pas à la santé. La santé, c'est la plus grosse source de dépenses. Même s'il pourrait y avoir de l'inefficacité, on ne va pas regarder ça. On ne va pas toucher à l'éducation, on ne va pas toucher à tout ça. Ben, le résultat, c'est que les inefficacités qui sont dans toutes ces choses qu'on ne touche pas demeurent.
Ah, faut se mettre tout partout. Oui, c'est ça.
Ben, c'était le problème de Doge, d'ailleurs, aux États-Unis. C'est qu'on a dit aux gens, on va faire le ménage dans l'État, on va revirer ça à l'envers, sauf on ne touchera pas à Medicaid, Medicare, ni l'armée, ni. Ouais, ben, maintenant, si tu touches à aucun des postes budgétaires, c'est sûr que ça peut pas marcher.
Ah, puis il avait mis la barre haute, là.
Il avait mis la barre très
haute. Trop haute, on va le dire demain. Renaud, Carney part avec un fonds d'investissement de 25 milliards. Le problème, c'est qu'il va emprunter l'argent.
Bien, exactement. En fait, vous rappelez peut-être en avril, là, quand le premier ministre avait dit qu'il allait partir, le premier fonds souverain du Canada. Quand on entend fonds souverain, on pense à peu près tous à la Norvège. C'est pas mal l'exemple le plus connu. Là. La Norvège, la chose, par contre, qui est vraiment différente, c'est que le fonds souverain de la Norvège, déjà que ce qui est investi, c'est des surplus budgétaires. La Norvège a juste un historique quasi continu de surplus budgétaires ininterrompus. La deuxième chose aussi, c'est que les politiciens de la Norvège ne peuvent pas utiliser leur fonds souverain pour piger un peu dedans puis donner des bonbons électoraux un peu partout.
Non.
Il y a des règles qui encadrent ce fonds-là.
Exact.
Fait que la Norvège a été un gros succès. Et quand ils nous proposent, en fait, c'est pas à ça que ça ressemble. Ça ressemble un peu plus à un genre d'investissement Québec. Dans le sens où on s'en va emprunter de l'argent. Là, on va avoir des politiciens et des fonctionnaires qui vont dire « Voici, c'est quoi les secteurs d'avenir? » Bien, cette méthode-là pour faire un fonds souverain, je dirais que c'est plus, bon, déjà un fonds de politique industrielle pour un fonds souverain, mais cette méthode-là, ça donne qu'elle a déjà été essayée à quelque part. En 2024, le Royaume-Uni a lancé ce qu'il appelle le National Wealth Fund. Puis, pourquoi est-ce que je trouve que ce modèle-là est vrament intéressant pour essayer de comprendre c'est quoi que Carney nous vend? C'est qu'une des personnes qui l'a vendu au Royaume-Uni, c'est nul autre que Mark Carney. Donc, quand le gouvernement travailliste à l'époque voulait lancer son fonds, il a demandé au Green Finance Institute de faire un panel. Sur le panel, il y avait Mark Carney pour voir qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre en place ce supposé fonds souverain. Le résultat, c'est que depuis que le fonds est en activité, donc d'abord, ça s'appelait la Banque d'infrastructure, après ça, ils ont changé le nom pour le National Wealth Fund il y a 2 ans. Mais depuis que le fonds est en activité, il a perdu de l'argent à toutes les années sauf une. Donc, en 4 ans, ils ont perdu des centaines de millions de livres. Il y a une seule année où ils ont fait un profit, et dans le rapport annuel, puis je trouvais ça actuellement hilarant en lisant, mais dans le rapport annuel, ça dit que ce surplus est une anomalie.
Ah, c'est une patente politique, là, clairement. Mais regarde, le fonds de Norvège, là, regarde, j'ai les résultats. Là, le premier semestre, là, la Caisse de dépôt qui a fait 5,1 là, mais ici, le fonds de Norvège, il y a 2300 milliards. Okay? Ils ont fait 182 milliards de profit net au premier semestre. Ouais. C'est un rendement de 9,4 milliards, là, c'est le budget de l'État du Québec pour un an. Là.
Et la différence, c'est que le fonds de la Norvège, ben, il n'est pas fait pour devenir un fonds de développement économique. Il est fait pour...
Ben, il s'en sert aussi pour faire ça, mais il y a un volet aussi d'investissement partout dans le monde. Là.
En fait, le fonds de la Norvège, c'est ça qui est vraiment intéressant. Ils n'ont pas le droit de l'investir en Norvège. Les règles sont très strictes. Ça ne doit pas être investi en Norvège, en partie pour ne pas faire surchauffer l'économie. Si on mettait 2000 milliards d'un coup, ben exactement, l'autre partie, c'est pour ne pas faire de politique.
Exact.
Le fonds souverain que Carney nous vend, c'est plutôt justement quelque chose qui va emprunter de l'argent et qui va mettre de l'argent dans des patentes à gosse comme Nordvolt et d'autres affaires de même, avec
aussi,
les résultats qu'on voit.
Exact.
Puis c'est exactement ce que le Royaume-Uni achète. Je veux dire, l'an dernier, on parle d'une perte de 150 millions de livres sterling, à peu près 250-300 millions de dollars canadiens. C'est beaucoup d'argent. Et quand on voit que la dernière fois que Mark Carney a proposé ça, ça n'a pas marché, je pense que les Canadiens ont raison d'avoir pas mal de craintes quand ils entendent Mark Carney dire qu'il va essayer de le refaire ici, mais avec encore plus d'argent.
Voilà, Renaud Brossard, on va surveiller ça parce que c'est notre argent qui est en bout de ligne. Là. Voilà, de l'Institut économique de Montréal. Merci Renaud, à la prochaine.
Toujours un plaisir. Bonne journée.
Bye-bye, voilà. Non, mais tu vois, Carney a mis ça sur pied. En tout cas, il était consulté là-dedans. Il a dit, oh, allez-y, il n'y a pas de problème.
Oui, oui.
Ça n'a pas fait d'argent.
Non, ça n'a pas.
Ça a mangé de l'argent, mais ça, c'est une autre patente là, aussi, là, tes écoutes, mais c'est de l'argent emprunté. Fait que déjà là, tu as un coût d'intérêt. Puis là, il faut que tu génères plus de rendement pour aller rechercher du rendement sur le rendement. Puis là, tu te fais des affaires avec des chums, peut-être, ou de la politique à travers ça.
Emprunter pour aller au casino.
Oh, ouais, c'est un peu comme la Caisse de dépôt, mais ou Investissement Québec, comme carrément Investissement Québec. Voilà, après la pause, on parle des marchés boursiers, la bourse, on regarde ça, on revient.
Couture.
Oui.
Dans le mid.
On revient dans pas long.
Radio X.